Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout sauf d'immobilier. Présentée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 57e émission de Complètement à l'Ouest et toute dernière émission de cette 6e saison. Le temps file à toute vitesse et de temps qui passe et de savoir comment l'occuper au plus juste, c'est de cela dont nous allons aujourd'hui parler. Question abyssale, tellement profonde qu'elle me fatigue d'avance. Aurais-je l'énergie, le courage de la traiter ? Allez, un petit effort mon ami, il faut que je donne tout pour cette dernière émission avec un invité qui, lui, ne se pose pas de telles questions métaphysiques, car lui, il est habitué à faire des efforts, en particulier quand il s'agit d'écrire des ouvrages passionnants. Lui au moins, pas comme moi, ne souffre d'aucun syndrome de flemme aiguë, car il a le sens de l'effort chevillé au corps. D'ailleurs, je le disais, il en a fait un livre très érudit intitulé « L'ère de la flemme » paru aux éditions Buchet Chastel. Montaigne, déjà à son époque, parlait de flemme. L'oisiveté, écrivait-il, semble être un coussin pour la paresse, mais c'est aussi le moment propice à la méditation. Plus proche de nous, le grand poète Fernando Pessoa, dans le livre de l'intranquillité, exprimait une sorte de bonheur mélancolique à ne rien faire, à simplement être spectateur du monde. Il me suffit de savoir que je peux m'asseoir sur un trottoir, regarder les gens passer et vivre sans but. De Montaigne en passant par Épicure, Horace, Shakespeare, Stevenson ou Pessoa, tous ont fait l'effort d'écrire, de penser, de réfléchir sur ce que faire et ne rien faire pouvait bien signifier. Alors, far niente, littéralement ne rien faire en italien, ou au contraire agir, that is the question. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour cher Olivier Babot.
Bonjour Philippe, merci de votre invitation.
Et merci une nouvelle fois au micro Complètement à l'ouest. C'est toujours pour moi un très grand plaisir de vous accueillir et de vous avoir à mes côtés. Et les auditeurs s'en souviennent, vous êtes déjà venu ici même pour nous parler de divertissement avec votre livre, c'était en 2023, La tyrannie du divertissement, ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie et celle de vos enfants. Et encore avant cela, c'était en 2020, vous étiez assis à cette même place pour nous présenter votre précédent essai, Le nouveau désordre numérique. Et aujourd'hui, je vous reçois, je le disais, à nouveau, pour que nous échangions sur votre dernier essai, L'ère de la flemme, paru, je le disais, aux éditions Buchet-Chastel. Olivier Babot, je n'oublie pas de dire que vous êtes aussi professeur à l'Université de Bordeaux, président fondateur du think tank Institut Sapiens, mais aussi chroniqueur. On vous lit dans Les Échos et on vous entend deux fois par semaine sur Europe 1 et évidemment essayiste. Olivier, il est tradition, vous le savez, de démarrer cette émission par un court extrait sonore, histoire de se mettre dans l'ambiance. Et là, nous allons écouter deux sons très courts qui vont parler d'efforts, de travail, de flemme, bref, de notre thème de ce jour.
Gringe ?
Hein ?
Pourquoi il y a des légumes dans le bac à bière ?
Mec, c'est quoi, j'ai bien réfléchi et franchement, on perd notre temps sur ce canapé-là. On est là à rien faire, on n'a qu'une vie, c'est chaud. Un jour, on va crever, on n'aura rien foutu.
Ouais, t'as raison, mais bon, de là à manger des légumes, faut que tu procèdes par étapes parce que ton corps, il va pas supporter quand tu vas enlever tous les nutriments de la bière d'un coup.
Un petit chocolat ?
Ça va ? Vous avez pas trop de travail ?
Vos femmes vont bien, les vacances, bonnes, les RTT.
C'est en sur-régime, là. Attention au burn-out. Hein.
Voilà, pour ces deux courts extraits, d'abord, et vous aurez reconnu, il s'agissait de la série Bloqué, diffusée il y a quelques années sur Canal+, en clair, avec ce 120e épisode et dernier, intitulé « On perd notre temps ». Et puis, à peine 10 secondes pour reconnaître la voix de Thierry Lhermitte dans le film de Bertrand Tavernier, Quai d'Orsay. D'un côté, deux amis vautrés dans leur canapé qui dissertent sur le sens de la vie en se disant qu'à quoi bon faire des efforts, et de l'autre, un ministre des Affaires étrangères monté sur pile, hyperactif. Finalement, deux visions, deux conceptions de l'effort, si j'osais, je dirais d'un côté la flemme et de l'autre la flamme. Olivier, je me suis régalé en lisant très en détail votre livre, très l'ère de la flemme, mais j'ai aussi regardé le dictionnaire de l'Académie française qui précise que flemme vient de l'italien flemma, qui signifie lenteur, placidité, et d'ajouter que ces synonymes sont paresse, indolence, par exemple, l'expression tirer sa flemme pour que pour dire que l'on s'abandonne à l'oisiveté. La question que je me pose est la suivante. Je citais tout à l'heure les essais, les trois essais avec celui-ci, ces sortes de triptyques que vous avez écrits sur se divertir et maintenant sur l'effort. Dans quel sens faut-il lire votre trilogie ? Devons-nous commencer par l'ère de la flemme ou au contraire commencer par les deux premiers que je citais tout à l'heure ?
Ah, c'est une très bonne question. En réalité, le sens est un peu libre, mais il serait quand même plus logique de les lire dans l'ordre chronologique, en fait, puisque c'est quand même une réflexion qui se poursuit, qui se développe et qui me mène là où je n'avais pas réellement prévu d'aller. Ça a commencé tout simplement par le constat autour de la polarisation du monde créée par les nouvelles technologies, polarisation économique, sociale, technologique. Et puis, dans cette polarisation, ce qui m'a vraiment frappé, c'est la façon dont l'utilisation de notre temps libre est un créateur d'inégalités sociales. Et c'est là que je me suis intéressé au rôle du loisir, et c'est ce qui m'a fait atterrir sur la tyrannie du divertissement. Et puis en tirant la pelote, je me suis dit, mais pourquoi on utilise mal notre temps libre, qui est le sujet de la tyrannie du divertissement? Eh bien, on l'utilise mal parce qu'il y a une crise beaucoup plus générale, beaucoup plus sérieuse, fondamentale, de notre rapport à l'effort. Et c'est le dernier livre sur l'ère de la flemme. Donc voilà, c'est plus ou moins un triptyque. Donc c'est quand même, ça devrait se lire dans l'ordre. Vous n'êtes pas obligé de lire les trois non plus.
C'est la dernière émission, la plage se présente bientôt.
Voilà, c'est des livres de plage.
Exact. Non, pas du tout. C'est au contraire dans quel sens les lire. Alors, pour plonger très directement dans votre livre, votre thèse est la suivante. Je vous cite, c'est à la page 16. Nous perdons le sens de l'effort. Et vous démontrez avec force exemple de toute nature que nous vivons de plus en plus dans une société du moindre effort. Avec cette conclusion, alors c'est presque en début de ce livre, puisque c'est à la page 19, je vous cite, si la civilisation de l'oisiveté est confondue avec celle de la paresse, elle conduira à la disparition de l'individu. Question immédiate et logique que je vous pose, puisqu'on a envie de comprendre, est-ce que c'est grave, docteur, et comment est-ce qu'on en est arrivé là?
J'essaye d'éviter ce qu'on appellerait aujourd'hui, vous savez, l'essentialisation. C'est-à-dire de dire, ça y est, on est plus paresseux. En particulier, les jeunes seraient plus paresseux. Non, c'est pas du tout ça. Je montre que nous sommes à une époque où toutes les conditions sont réunies pour qu'on ait moins de raisons de faire des efforts. C'est-à-dire que toutes les raisons qu'avaient nos aïeux, et nous, il y a peut-être 10, 20 ans, plutôt 30 ans, de faire des efforts, toutes ces raisons, pour des raisons technologiques, des raisons d'ordre social, des raisons de valeur, des raisons de capacité à trouver ce qui nous meut, ce qui nous motive, tout ça a disparu, et ce qui crée une société du tout de suite. L'effort, c'est quoi? C'est résister à la contrainte, c'est contourner la contrainte, c'est la surmonter, mais c'est plus fondamentalement mettre son plaisir à distance, c'est-à-dire être capable de ne pas se faire plaisir tout de suite de façon immédiate et forcément beaucoup plus facile, mais être capable d'aller prendre un plaisir qui pourra même devenir un bonheur parce qu'il est plus éloigné, il peut être éloigné de plusieurs années, il peut être éloigné sur toute une vie, ça peut être une quête de toute une vie, mais cette quête, elle va vous élever, elle va vous nourrir beaucoup plus en profondeur. Eh bien, ça, c'est le fruit de l'effort, et mon hypothèse, c'est que l'effort, il est présent dans le travail, il est présent, il peut être facteur de douleur et de souffrance négative, mais il est aussi un facteur fondamental positif de construction de notre bonheur, de notre existence. L'effort, c'est notre colonne vertébrale. Donc, en abandonnant l'effort, en fait, on abandonne notre capacité à trouver notre bonheur, tout simplement. Et ça, c'est très préoccupant.
Alors, dans les premiers chapitres de votre essai, vous faites référence à la fameuse pyramide de Maslow, qui est une représentation de la hiérarchie des besoins des humains. De bas en haut, d'abord, il y a les besoins physiologiques, puis les besoins de sécurité. Un peu plus haut, les besoins d'appartenance et d'amour. Suivi, ce sont les deux derniers étages, avec les besoins ultimes, l'estime et l'accomplissement de soi. Vous écrivez, si je vous ai bien compris, que nous, les humains, ne pouvions pas nous permettre de flemmarder quand il fallait que nos besoins de base physiologiques et de sécurité devaient être absolument assouvis, car il en dépendait de notre sécurité et de notre survie, mais qu'à partir du moment où cela a été acquis et que nous n'avions plus qu'à nous préoccuper finalement d'appartenance et d'estime de soi, le ver de la flemme était dans le fruit. Est-ce que j'ai bien compris?
Oui, alors, je sais bien que Maslow a été extrêmement critiqué, d'ailleurs, à raison. Mais je crois quand même que, d'une façon pédagogique et utile, on peut distinguer trois grands besoins à l'être humain. Évidemment, il doit d'abord survivre physiquement. Et puis ensuite, c'est un homme, un être social, un zoon politikon, comme dit Aristote. Donc, il est fait pour être en société. Donc, il a besoin d'appartenir à la société, d'être reconnu comme membre de cette société. Et puis, enfin, il a des aspirations à une forme de réalisation de soi plus élevée à travers différents objectifs qui sont donc élevés et qu'il y avait autrefois évidemment à travers une réalisation religieuse ou militaire et héroïque. Et bien, ce que je montre, c'est que autrefois ces trois grands piliers allait de pair avec une exigence d'effort immense. Survivre, c'était extrêmement dur, le monde était difficile, le monde c'était survivre d'ailleurs à la contrainte, et c'était pas d'ailleurs faire des choix, parce que la plupart du temps on n'en avait pas beaucoup. Appartenir à la société, ça aussi, on se rend pas compte, jusqu'à il y a très peu de temps, la condition d'appartenance à la société, c'était de devenir ce que la société voulait que vous soyez.
Et de tenir
son
rang. Et
non pas, voilà, exactement. C'était un travail sur soi. C'était un travail, par exemple, dans les sociétés premières, où vous alliez acquérir des compétences de façon extrêmement concurrentielle. Si on pense à la cryptie, à Sparte, où vous allez partir pendant un an et vous n'étiez pas sûr de revenir vivant, mais c'était la condition pour être un guerrier reconnu et accepté parmi l'élite des hommes. Tout ça, c'était une concurrence énorme. C'est pas du tout le paradis où on passe son temps à manger être tranquille
des
sur
olives.
Le baobab, hein, ou de l'huile d'olive tranquillement en attendant la sieste. Non, c'était extrêmement exigeant. Et donc la société exigeait que vous preniez la place qu'elle avait déterminée pour vous. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Alors qu'aujourd'hui, on comprend bien que tout ça s'est retourné. C'est à la société de nous faire la place qu'on a décidé qu'elle allait nous faire. C'est à la société de se régler sur nous et sur nos lubies. Et, par exemple, d'adapter les pronoms que j'aurais décidé. Et puis la troisième chose, c'est la réalisation de soi. Autrefois, c'était très élevé, c'était le saint, c'était le héros, c'était le chevalier, c'était assez exigeant et c'était très caractéristique comme type de réalisation qui vous était dicté par les morales du devoir, du sacrifice de soi. Bon, et du sacrifice aux autres. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Grosso modo, on vit dans ce qu'on pourrait appeler un monde hédonique, de hédoné en grec le plaisir, c'est-à-dire que ce qui fait la valeur d'une vie, si on demande à quelqu'un dans la rue, qu'est-ce qui fait la valeur de votre existence, qu'est-ce qui fera la valeur de votre existence, le jour où vous serez sur votre lit de mort, il dira probablement quelque chose comme, et je critique pas du tout, la somme des expériences vécues, des expériences positives vécues, c'est-à-dire une forme d'hédonisme autour du fait qu'on aura eu le plus de plaisir possible, on a coché toutes les cases, on aura visité les bons endroits, on aura bu un maximum de bonnes bouteilles et eu un maximum de bons moments. Je critique pas ça du tout, sauf que faisons très attention, dans cet hédonisme, il y a un hédonisme à court terme et à courte vue, c'est-à-dire un hédonisme du plaisir facile qui nourrit pas réellement et qui en fait vous rend très malheureux, et puis un hédonisme plus exigeant, c'est-à-dire plutôt ce qu'on appellerait, ce que j'avais rappelé comme étant l'ossium latin, le loisir latin, le loisir studieux ou la scolae grecque, c'est-à-dire ce loisir qui est un travail sur soi, c'est-à-dire ce plaisir qui va être poursuivi, mais à travers une maîtrise de soi, une capacité à discipliner ses instincts les plus, comme auraient dit les hommes de l'Antiquité, ses instincts les plus directs et les plus vils. Et ça, pour le coup, ça, c'est un hédonisme qui d'ailleurs devient plutôt un eudémonisme, c'est-à-dire une quête du bonheur. Et donc voilà, je dis attention, ne nous trompons pas, le risque, c'est que tout est réuni pour qu'on poursuive un hédonisme de bas étage, si vous voulez.
Alors, dans votre essai, vous évoquez les 30 paresseuses, l'expression est magnifiquement trouvée, qui ont suivi, dites-vous, les 30 glorieuses. Quelle est cette idée et comment nous en sommes arrivés là? Est-ce que c'est seulement la pensée 68, j'allais dire, comme vous l'écrivez, c'est à la page 165? Et dans la même veine, en quoi, 5 ans après, la crise Covid a-t-elle laissé ou a accentué cette ère de la flemme?
Alors d'abord, c'est la conjonction de plein de choses, et la conjonction d'ailleurs paradoxale, puisque c'est l'aboutissement d'un effort de l'humanité depuis des centaines de milliers d'années, c'est-à-dire l'effort de développer des technologies qui nous aident à épargner nos efforts. Parce que toutes les technologies ont cette idée-là. On a des lances pour pas avoir à courir contre les bêtes sauvages. On a des choses qui nous permettent d'aller plus vite, de communiquer sans avoir à se déplacer. Tout ça, c'est pour nous épargner des efforts. Jusque-là, en réalité, ça avait fait que la vie était quand même encore pleine d'efforts. Mais les technologies, aujourd'hui, arrivent à un point d'aboutissement où, en effet, elles font réellement les efforts à notre place. Et puis, ça vient en conjonction avec des changements de morale. Jusqu'à il y a peu de temps, comme je l'ai dit, on avait des morales du sacrifice de soi, des morales de la souffrance rédemptrice, expiatrice, elle était bonne en elle-même, et puis le travail lui-même était vu comme une bonne chose, parce que ce travail il était nécessaire à votre identité sociale, et on ne se posait pas tellement la question, la vie c'était travailler en grande partie. Aujourd'hui, tout ça a complètement changé, probablement à partir de mai 68, où pour la première fois se faire plaisir est devenu une valeur de résistance justement à l'oppression du système. Alors jusque-là, se faire plaisir était dans la morale, en particulier la morale bourgeoise, extrêmement honteux, extrêmement péjoratif. Jamais on aurait avoué qu'on était là pour se faire plaisir. C'était un truc qui était absolument impossible, je cite, pour mes grands-parents, par exemple. Alors que c'est devenu, au contraire, la valeur première. Être authentique, être soi, être premier, ne pas se faire... se laisser aller, finalement, le laisser aller... qui malheureusement devient aussi le sans-gêne, hein. Tout ça est devenu une valeur première. Ça aurait pas pu évidemment arriver sans quelque chose comme mai 68, mais ça s'est placé beaucoup plus fondamentalement dans tout l'Occident. Et puis le Covid a été une accélération extraordinaire, ça a cassé notre rythme de travail. Tout d'un coup on s'est rendu compte qu'on pouvait vivre sans travailler, 2 mois tout d'un coup de grandes vacances. Alors moi en tant que professeur je connais ça depuis toujours et je trouve ça normal, mais la plupart des gens ils n'avaient pas connu ça depuis leur longue vie étudiante, n'est-ce pas? Et ça a probablement remis en cause plein de choses. C'est bien de se remettre en cause, c'est bien de réfléchir au sens de sa vie, et parfois peut-être que on est comme des hamsters tournant dans une roue sans réfléchir, mais en même temps en jetant sans doute la valeur travail, on a probablement, et ça c'est terrible, jeté la valeur effort avec l'eau du bain, et ça c'est terrible parce que ça vous laisse, et les chiffres sont terribles, ça vous laisse dépressif, ça provoque un mal-être. Paradoxalement, ça ne fait pas du tout exploser cette fin de l'effort, le bien-être qu'on pourrait imaginer. Vous savez, le confort, c'est ce qui est censé renforcer. Et ben, en réalité, ce confort, il affaiblit.
Alors, on va marquer une courte pause musicale avec l'écoute d'un morceau qui ne va pas du tout nous inciter à la flemme, mais plutôt à l'élévation, à l'effort, au repos de l'âme. Il s'agit d'un morceau du compositeur que vous avez choisi, qui s'appelle Nikolaus Bruns, qui est un musicien du XVIIe siècle, allemand, enfin prussien.
Oui. Mort très jeune, parce qu'à l'époque, la vie était dure.
Voilà.
32 ans, je crois.
Exactement, 32 ans. Mmh. C'est un prélude en mi mineur, Le Grand. Ici, dans sa version interprétée à l'orgue, l'organiste se nomme Cédric Burgelin. Il est titulaire des grandes orgues de la cathédrale de Saintes. Quel est le rapport entre le morceau qu'on va écouter et puis l'air de la flemme?
Eh ben, c'est l'un des morceaux qui m'a révélé l'effort à moi-même. Et je vous raconterai après pourquoi.
Allez, on écoute. Allez, de retour avec Olivier Babeau qui publie L'air de la flemme aux éditions Buchet-Chastel. On écoutait à l'instant ce magnifique, très court bien sûr, morceau du XVIIe siècle. Olivier, quel est le rapport entre l'orgue et l'organiste que vous êtes peut-être et puis la flemme?
Eh bien, pardon d'avoir d'abord imposé ça aux auditeurs, parce que c'est pas forcément leur tasse de thé, je le comprends tout à fait. Moi, c'est la musique que j'écoute, mais je comprends que chacun a son...
C'était très beau,
quelque chose qui le fait vibrer, voilà. Moi, ça fait partie des œuvres qui... Quand j'étais un enfant, un jeune adolescent un peu indolent, qui connaissait pas tellement l'effort, qui n'était pas très intéressé en classe, ça fait partie des choses qui indirectement, et je vais vous dire comment, m'ont révélé à l'effort et m'ont fait comprendre le sens de l'effort. J'ai eu une sorte de coup de foudre esthétique pour ce truc qui ressemblait à rien en fait, que j'avais jamais entendu nulle part. J'étais tombé sur un disque d'orgue chez moi à la maison qui devait traîner et je m'ennuyais dans ma chambre, parce qu'à l'époque il y avait pas autant d'écrans qu'aujourd'hui, donc on n'avait pas tellement le choix. Donc je lisais beaucoup, je mettais beaucoup de musique et je mettais les disques que j'avais sur le tourne-disque et j'étais tombé là-dessus. Ça a été un choc et ce jour-là j'ai décidé de faire de la musique. Je me suis mis au piano. Je devais avoir 14 ans, quelque chose, 15 ans. Je me suis mis au piano pour faire de l'orgue et depuis je suis devenu organiste. Quand j'ai été étudiant, je gagnais un peu ma vie en jouant au mariage et aux enterrements. Et aujourd'hui, ça fait partie du style de musique que j'écoute. On est vraiment en plein dans ce qu'on appelle la musique baroque, entre 1600 et 1750. Baroque au sens de bizarre, étrange. Et on comprend bien que ce prélude très libre d'un grand génie qui malheureusement est mort trop tôt est une musique effectivement qui peut paraître baroque, étrange. Et moi, c'est ce que j'aime. Alors pourquoi ça m'a introduit à l'effort? Parce que j'ai découvert à travers l'apprentissage de la musique et j'ai appris tout seul en fait. Au départ, avant de finir au conservatoire et puis prendre des cours pour finir par plus faire n'importe quoi, mais j'ai appris justement l'effort, le plaisir de la discipline. Apprendre un instrument de musique, c'est des milliers d'heures de travail. c'est des heures de travail exigeantes où il faut répéter des choses. C'est pas toujours drôle. Vous avez un peu de plaisir, mais un tout petit peu. Se faire plaisir, en général, c'est quelque chose qui ralentit plutôt votre apprentissage. Et donc, c'est une apprentissage extrêmement radical de la vertu de l'effort, de la mise à distance du plaisir pour avoir, mais une qualité de plaisir. Aujourd'hui, quand vous pouvez mettre une partition sur un piano et commencer à jouer, ou quand vous pouvez improviser de la musique, mais vous avez une qualité de plaisir que jamais, même aucun mélomane ne comprendra. C'est-à-dire celui qui produit de la musique a un plaisir que rien ne pourra émuler, évidemment, même si un mélomane a une sorte de plaisir. Et donc voilà, moi ça m'a introduit au plaisir de l'effort, et à travers lui j'ai découvert ce que c'était que l'effort. J'étais pas un bon élève du tout, je sais pas s'il y a un vrai lien, mais en tout cas il y a une coïncidence, puisque à partir du lycée, je sais pas comment ça s'est passé, mais je suis devenu un assez bon élève, et puis j'ai fait plein d'études supérieures pendant très longtemps, et qui m'ont permis d'être professeur aujourd'hui. Et je crois que jamais je n'y serais arrivé si je n'avais pas eu cette révélation du sens de l'effort à travers la musique.
Vous en parlez magnifiquement bien. En tout cas, on retrouve le descriptif de cette passion pour la musique et pour l'orgue dans votre livre « L'ère de la flemme ». Il y a dans votre essai justement l'idée que les notions de courage et d'engagement seraient aussi en déclin. Pourtant, il y a un domaine où l'affaissement de ces valeurs ne semble pas être totalement à l'ordre du jour. On va tout de suite écouter ce court son.
Toujours solidaire, jamais solitaire.
Ma voix. Ici, on avance. Tous avec les mêmes chances. Nos valeurs nous façonnent. Nous sommes vos soldats.
L'armée de terre recrute et forme 15 000 soldats égaux. S'engager.fr. Votre volonté, notre fierté.
On a bien sûr identifié qu'il s'agissait donc du clip de recrutement de l'armée de terre qui vante les mérites de l'engagement et de la volonté. Et en lisant votre essai, en faisant le parallèle avec l'actualité géopolitique qui a eu pour conséquence de drainer des milliers de candidatures pour servir sous les drapeaux ou dans la réserve, est-ce que ces souhaits d'engagement massif ne viennent pas contredire votre thèse? Finalement, est-ce que cette ère de la flemme ne peut-elle pas disparaître, ou en tout cas s'atténuer, lorsqu'il y a une cause plus grande qui est en jeu?
En tout cas, si j'avais écrit le livre un peu plus tard, j'aurais évidemment pris en compte l'espèce de réaction au danger nouveau qui apparaît à travers la menace du monde, évidemment, qui est en train de susciter une réaction justement à un monde qui n'est plus totalement uniquement un monde hédonique, hédoniste, qui était celui où on pouvait penser vivre il y a 10 ans dans une paix perpétuelle, vouée à vivre uniquement dans les problèmes et les affres du choix entre les différents produits qu'on nous propose. Mais de façon générale, je le dis dans le livre, il y a plein de poches, il y a plein d'endroits où déjà ce besoin de réalisation de soi, de choses plus élevées, de capacité à développer de l'effort, se voyait. Regardez, l'été dernier, on a fêté les Jeux Olympiques, on a fêté le courage, l'effort, la mise à distance, du plaisir, des gens qui ont sacrifié une partie de leur jeunesse pour gagner quelques centièmes de secondes, avec des efforts extraordinaires. Et puis, il y a un autre exemple qui est rigolo, c'est récemment un grand youtubeur qui s'appelle Inoxtag,
hein.
Voilà, qui tout d'un coup a eu l'idée en un an, alors qu'il n'était pas du tout spécialement sportif, de monter l'Everest. Et alors, il a eu des millions de vues. Alors évidemment, c'est intéressant, c'est intéressé de sa part, puisque ça lui permet d'avoir des vues, c'est comme ça qu'il gagne sa vie en tant que youtubeur. Mais son message, il est aussi paradoxal et intéressant, parce qu'il dit, je vais faire moins de vidéos, je vais sortir plus, et vous aussi, arrêtez à la limite de trop regarder mes vidéos. La vie est formidable quand on se fixe des objectifs de ce type-là, et il paraît que ça a déclenché un mouvement chez les jeunes qui se rendent compte que la vie, c'est pas seulement regarder une suite de shorts avec le doom scrolling, le défilement de la mort. Et ça, c'est très positif. Il y a plein de façons comme ça pour, de temps en temps, la réalité des grands messages de sagesse de la vie qui sont les mêmes depuis des dizaines de milliers d'années, ça arrive de canaux différents. Donc je suis assez quelque part optimiste, au sens où je suis sûr qu'une grande partie, qu'une partie d'entre nous, peut-être pas une grande, mais une partie d'entre nous, vont avoir une réaction prophylactique, en fait, à un monde technologique dont on voit qu'il peut être mal utilisé et nous permettre de nous diminuer au lieu de nous augmenter.
Comment les États-providence, j'ai bien dit les États-providence et pas seulement le nôtre en France, contribuent-ils, selon vous, à l'appauvrissement de notre volonté et à la perte du sens de l'effort ?
Bah, État-providence est une chose formidable s'il permet évidemment aux plus faibles d'être protégés. Et je crois vraiment la valeur d'une civilisation se voit à la façon dont on protège les plus faibles. Dans les anciennes civilisations, il faut toujours se souvenir, hein, dans beaucoup, on allait systématiquement supprimer les plus âgés parce qu'ils ne servaient plus à rien. C'est une réalité qui a été montrée par les ethnologues. Donc c'est formidable. Le risque, c'est quand cet État-providence devient un État édredon. C'est-à-dire que un État qui va non pas seulement aider ceux qui sont les plus en difficulté, faire un filet de sécurité, mais se proposer d'amortir toutes les difficultés de la vie. C'est un peu le cas chez nous, quand vous voyez que tout d'un coup, dès qu'il y a un problème d'inflation, il y a un bouclier anti-inflation. Il faut tout d'un coup que l'État se donne pour objectif, comme il sait pas très bien comment être utile, comme par ailleurs il est pas très efficace dans plein de choses, eh ben, il essaye de montrer son efficacité en amortissant tous les problèmes de la vie pour que vous puissiez vivre dans votre cocon. Bah ça, pour moi, c'est catastrophique parce que justement, ça contribue à désapprendre la capacité et la nécessité à se fixer des efforts. Alors, c'est vrai pour la survie, c'est formidable que l'État, qu'il ne soit plus nécessaire dans notre société nécessairement de travailler pour survivre. Et on a d'ailleurs moins de la moitié des gens qui travaillent, en fait, pareil, beaucoup plus d'inactifs que d'actifs. Mais aussi, c'est dramatique dans la mesure où bah, vous pouvez de plus en plus imaginer qu'il n'est pas nécessaire de faire des efforts. Et en effet, vous ne les faites plus. Et ça ne vous sert pas, ça ne sert pas votre bonheur à long terme. Voilà.
Vous consacrez évidemment de nombreuses pages au fait que l'avènement de l'intelligence artificielle presque généralisée, on n'y est pas encore, mais ça, néanmoins ça approche assez vite, le déclin de l'effort est presque une certitude. Quel rôle jouent les technologies modernes et bien sûr l'IA dans l'émergence de cette ère de la flemme? Vous y consacrez encore une fois de nombreuses pages et vous êtes très pessimiste là-dessus.
Je le vois d'ailleurs, c'est incroyable la rapidité avec laquelle depuis 2 ans et demi, avec l'arrivée de l'IA générative, les choses progressent et les pratiques progressent dans toutes les générations, mais évidemment en particulier chez les jeunes qui comprennent très très bien comment ils peuvent les utiliser,
C'est le professeur qui parle.
Et c'est le professeur qui parle et qui voit très bien évidemment les étudiants. Je vois pas comment on peut aujourd'hui éviter que tous les devoirs à la maison soient faits en fait par ChatGPT. Et ils sont évidemment infiniment mieux faits que par tous les étudiants. C'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est au fait qu'ils sont bien faits. Donc il n'y a pas d'erreur de français, il n'y a pas de faute. Même si vous pouvez en rajouter d'ailleurs paradoxalement des fautes pour faire croire que c'est vraiment vous. C'est l'aboutissement incroyable de ces technologies qui nous permettent d'éviter les efforts. Jusque-là, ça nous permettait évidemment d'éviter des efforts physiques, à la limite pas mal, parce que ça supprime en particulier les emplois très pénibles. Ça supprimait de plus en plus l'effort de mémoire. Bah, c'était ce qu'on reprochait à l'écriture depuis toujours. Hein, au début, l'écriture, on lui reprochait de fait qu'on avait moins de mémoire. Et c'est vrai, on avait beaucoup plus de mémoire avant l'écriture, parce qu'on était contraint, il n'y avait pas cette technique de stockage des informations, qui sont nées d'ailleurs pour des raisons comptables, comme on sait initialement. Et bien aujourd'hui, on a même la machine qui va nous éviter d'avoir à faire l'effort de l'intelligence interléguerée, c'est-à-dire de mettre les rapports en savoir, les savoirs en rapport, de faire une synthèse entre les choses, d'avoir une mécanique cognitive qui nous permette d'essayer de comprendre le monde et de surmonter les difficultés, parce que la machine, de plus en plus, qui là, elle est générative, demain, elle sera agentique, c'est-à-dire en plus, elle va vraiment être capable de faire les choses à sa place. Donc c'est demain une IA et un robot humanoïde, parce que ça va arriver aussi très rapidement, qui va faire votre ménage, qui va faire la cuisine, qui va ranger, à la limite on peut dire très très bien, mais c'est aussi quelqu'un qui va faire toutes les opérations d'intelligence, y compris d'ailleurs dans le travail, que vous n'aurez plus à faire. Et la vraie question qui se pose, encore une fois, mais c'était ce que j'avais dit dès la création de Sapiens il y a 8 ans, c'est la place de l'être humain dans un monde, qu'allons-nous faire de ce temps. Je crois vraiment, ça paraît très bizarre de poser cette question là mais que notre vrai problème à terme, c'est comment utiliser notre temps libre en réalité.
Je voudrais juste finir avec cette question de vocabulaire qui aurait dû peut-être figurer en début d'émission, histoire de bien poser les termes. Quelle différence faites-vous entre flemme, paresse et oisiveté?
Ah, c'est une très bonne question. Alors effectivement, les définitions peuvent bouger, mais la paresse, ce serait l'idée de quelque chose de constitutif de ce que vous êtes. Vous êtes paresseux, c'est-à-dire vous manquez d'énergie. Alors c'est vrai que on sait que génétiquement, on n'est pas avec la même énergie tous. C'est tout à fait vrai. Cela étant, on peut quand même faire l'effort un matin de décider de se lever ou de pas se lever. C'est quand même possible, et on a tous eu probablement cette tentation un jour ou l'autre. Et ben cet effort, il fait toute la différence. D'ailleurs, c'est, je crois, le philosophe Alain qui dit le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Bon, la flemme, c'est la capacité à faire des efforts que vous pouvez ressentir à un moment donné. Quand beaucoup de gens font l'éloge de la paresse, en réalité, ils font plutôt l'éloge de l'oisiveté. Mmh. Et c'est là qu'on en arrive au troisième terme. L'oisiveté, c'est plutôt là au sens d'osium, c'est-à-dire, encore une fois, le latin, le loisir studieux. L'oisiveté, elle n'est pas mauvaise. Au contraire, elle est exactement ce qu'il faut recommander pour un latin ou pour un homme de l'Antiquité. Elle s'oppose justement au neg osium, le négoce, le business, le fait d'être occupé, qui au contraire, un truc d'esclave. Mais attention, l'osium, c'est pas le far niente, c'est pas ne rien faire, c'est pas se laisser aller, au contraire, c'est être très exigeant dans ce que vous faites. L'osium, c'est travailler à l'augmentation de ses capacités, c'est travailler aux humanitas, comme aurait dit Cicéron, c'est-à-dire apprendre les choses qui vont te rendre humain, et tu n'es pas humain sans cet osium. Sous-entendu, évidemment, l'esclave n'est pas vraiment un être humain, il est juste une machine. Hein. Celui qui est réellement humain, c'est celui qui a fait l'effort d'apprentissage, de ce savoir, de ce travail sur soi. Ce travail sur soi, il demande énormément de domination de soi par l'effort, de domination de ses instincts, et de vous allez modeler, vous allez donner forme à votre cognition. Donc vous voyez que c'est très exigeant, cette oisiveté, si on le veut, cette paresse, moi je veux bien faire l'éloge de la paresse, il n'y a aucun problème, mais si cette paresse, ça signifie cet osium. Je ne crois pas qu'on lui donne tout à fait tous le même sens.
Merci beaucoup Olivier Babot d'avoir accepté une nouvelle fois, pour la troisième fois, de venir à ce micro pour cette 57e émission de Complètement à l'Est et à l'Ouest, et c'est la dernière de la saison. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'ère de la flemme qui est paru aux éditions Buchet-Chastel. Et comme j'adore faire mentir les proverbes, jamais 204, voire 5, voire 6, voire 7, aussi longtemps que les saisons de Complètement à l'Ouest s'enchaîneront, vous serez ici, chez vous, cher Olivier.
Merci, à la prochaine fois.
À la prochaine fois. Transition toute trouvée pour mentionner ici que cette 6e saison, eh bien, n'aurait pas pu se dérouler sans l'assistance de toute l'équipe technique de Radio Imo. Et je le dis à chaque fois et j'y tiens, car ce sont Baptiste, Théo, Jason et les autres qui rendent possible ces enregistrements et ces diffusions. Merci beaucoup à vous en régie. Remerciements également à Sylvain Lévy-Valency, Olivier Lucas et Karine Weber qui me font confiance pour mener la barque de Complètement à l'Ouest. Merci beaucoup à vous trois. Et puis, j'adresse mes remerciements à tous mes invités qui, au fil des mois, se sont succédés à ce micro. Dans l'ordre d'apparition, il y a eu le professeur Marc-André Sellos pour nous son analyse sur la biodiversité et le rapport à la nature. Il y a eu également Laurence de Villers, la philosophe, qui nous a parlé de beauté. Nous en avons besoin. Il y a eu aussi le général Philippe Steininger pour son éclairage sur les enjeux militaires et civils de l'espace. La journaliste grand reporter Marine Jacquemin, à l'occasion de son livre qui retrace son parcours au long cours, partout ou presque sur le globe, et nous avons fêté ensemble avec elle la 50e bougie de Complètement à l'Ouest. Le professeur ensuite d'art oratoire Stéphane André, le journaliste Antoine Moriotti qui a écrit un livre passionnant sur l'histoire secrète de la CIA. Nous avons poursuivi avec Maxime Blondeau, spécialiste de la géoconscience, et puis je n'oublie pas le prospectiviste Michel Lévy-Provençal et suivi du philosophe Roger Paul Droit qui nous a parlé du poids et du rôle crucial des idées. Nous approchons de la fin de cette longue liste avec l'océanographe François Sarano avec lequel nous nous sommes entretenus du rôle central des océans, et enfin, last but not least, cher Olivier, vous qui êtes venu couronner cet éclectisme assumé et totalement revendiqué. Un grand merci à vous toutes et à vous tous. Chers amis auditeurs et auditrices, vous savez tout, il ne reste plus qu'à vous préciser qu'il nous faut garder le cap absolument, le cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, une émission à réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.